Bien écoutez, je vous propose de commencer cette conférence sans plus attendre. Bienvenue à tous. Je tiens à remercier la médiathèque et la directrice de la médiathèque qui, à nouveau, nous laisse à disposition cette salle. Et nous sommes heureux donc de vous accueillir au nom de toute l'équipe de la librairie Jean Calvin pour cette seconde conférence consacrée au cycle protestantisme en voyage. Nous avons abordé au mois de janvier avec le professeur Franck Lestringant le voyage de découverte, les Huguenots en Floride, au Brésil et au Canada. Et nous avons vu donc comment les Huguenots, en particulier Jean de Léry, ont vécu cette première expérience coloniale qui a été une expérience somme toute assez violente. Vous pouvez retrouver, si vous le voulez, la conférence en ligne sur le site de la librairie Jean Calvin, gratuitement téléchargeable sur www.librairiejeancalvin.fr. Et ce soir, nous sommes heureux donc d'accueillir Dieter et Heidi Gembicki qui ont bien voulu accepter notre invitation pour ce soir nous intéresser au protestantisme et au voyage missionnaire, puisqu'il s'agit ici de découvrir le journal du frère Free, Morave, qui vient en France pour connaître à la fois le monde réformé. Donc ce journal est un journal de découverte du monde réformé français dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, mais c'est aussi une occasion de découvrir, comme le dit Dieter Gembicki dans son introduction, cette histoire par le prisme morave. Et donc, c'est aussi l'implantation du monde morave en France, cette tentative d'évangélisation par les moraves, qui sera assez réduite numériquement, mais non moins influente, hein, puisque les grands pasteurs du monde réformé français seront considérablement touchés, considérablement transformés par cette expérience morave. Et je pense notamment à l'un des frères Gibert, qui est un des restaurateurs du protestantisme français, bien souvent oublié dans les Charentes. Hein. On pense souvent, quand on parle de la restauration du protestantisme français, au pasteur Antoine Court, mais on oublie qu'avant lui, Jacques Roger a travaillé dans le Dauphiné, et on oublie qu'en Charente, hein, ceux qui ont restauré le protestantisme français, ce sont les frères Gibert, originaires des Cévennes, hein, de Saint-Martin-de-Boubeau, si je me souviens bien. Voilà, donc je laisse tout de suite la parole à Dieter et Heidi Gembicki, qui sont historiens. Heidi Gembicki a été professeur de langue allemande à Genève. Elle a aussi participé aux instances ecclésiales du monde morave, donc elle connaît ce monde de l'intérieur. Et quant à Dieter Gembicki, hein, c'est un spécialiste de Voltaire, spécialiste du XVIIIe siècle, spécialiste du siècle des Lumières, donc, et qui a étendu sa spécialité, cette fois un petit peu plus sur le monde religieux, le monde spirituel, hein, en consacrant tous deux cette année de leur vie à ce travail, à l'édition de ce journal du frère Free, qui est une édition, je le souligne d'emblée, j'y reviendrai, tout à fait remarquable, non seulement par la qualité du texte, mais aussi par la qualité des annotations qui nous fait découvrir, personne par personne, hein, le monde réformé français, toutes ses influences, ses divergences et toute sa diversité. On y découvre aussi les tensions qui traversent ce monde. Donc c'est riche, c'est une mine, une véritable carrière d'informations que ce journal, que je vous invite à découvrir. Et je salue ici aussi le courage de l'éditeur, car qui peut avoir le courage aujourd'hui d'éditer un journal comme celui-ci, prendre le risque éditorial, un risque qui n'est pas mince, puisqu'il y a ici plus de 400 pages. Voilà, donc je laisse tout de suite la parole à Dieter et Heidi Gembicki.
Nous remercions Franck Belloir pour les deux casquettes qu'il porte, c'est-à-dire la librairie Calvin, et vous le savez tous, c'est une librairie qui est dirigée vers un Calvin du futur, et pour la mission Timothée qui nous a invités. Il a fait l'éloge de notre travail. Alors là, je ne peux pas prendre position, mais j'aimerais vous mettre en garde. Le livre est dangereux. Il pèse 1 kilo 100 grammes. S'il tombe sur votre orteil, il y aura des conséquences. Il faut voir aussi que c'est un très grand honneur pour nous de parler ici, comme Franck Belloir arrive à inviter le Gotha du protestantisme ici à Alès, c'est-à-dire c'est donc une petite université d'été pour le protestantisme. Nos remerciements vont également vers ceux et celles qui nous ont aidés dans la confection du livre. Pierre-Yves Kirchléger de Montpellier et Madame Pauline Roux-Tatou de Genolac. Ils nous ont fourni des précisions pour les annotations. Les remerciements vont également à ceux qui nous ont soutenus par leur intérêt, comme les radios locaux qui nous ont interviewés à plusieurs reprises. Nous devons vous dire d'emblée, nous deux sommes des germanophones, c'est-à-dire une bernoise et un hambourgeois. Alors notre français est ce qu'il est et vous ne pouvez pas attendre une causerie et c'est pourquoi nous tenons à notre manuscrit. Et de toute façon, j'aimerais vous dire, j'ai rencontré il y a 40 ans à la Bibliothèque nationale un Américain et qui m'a dit la vérité. Il m'a dit le français, c'est une langue tellement difficile à maîtriser, c'est pourquoi ils ont les 40 immortels. Alors, c'est relever un défi de venir parler sous le titre de « Voyager pour témoigner ». C'est un très gros sujet, on pourrait écrire une bibliothèque pour cela, et de gré et de force, notre conférence tâche de s'insérer dans ce cycle de conférences sur le thème du voyage, et nous sommes honorés de pouvoir contribuer par notre édition. Avant de nous attaquer à notre devoir, c'est-à-dire le sujet, il convient de mettre des échalas, des préalables en vue de cadrer notre sujet, on pourrait aussi dire l'encadrement historique, et d'en saisir au moins dans les grandes lignes le contexte historique.
Et commençons donc par l'angle qui vous est tout à fait familier. Vous reconnaissez, je suppose, cette vue splendide. C'est la corniche des Cévennes. Dans le dictionnaire de conversation de 1834, on peut lire, je cite, « Les nouvelles routes que Baville, Villars et Berwick avaient fait percer dans les Cévennes devinrent un bienfait pour le pays et ont offert à son industrie d'utiles débouchés. » Mais vous le savez vraiment mieux. Cette route sur les hauteurs avait été construite pour mettre fin à la guerre des Camisards, pudiquement appelée les troubles des Cévennes. Pourtant, une partie reste cachée à nos yeux. Les innombrables bourgs et hameaux où le protestantisme a survécu en dépit de toutes les mesures de répression. En 1715, c'est justement dans cette région que renaît l'Église réformée en tant qu'organisation structurée, en consistoire et synode. Événement de première importance à commémorer en 2015. Il suffit de citer deux noms, Antoine Court et Pierre Cortez. Cette église verra adhérer petit à petit presque toutes les autres régions protestantes et on pourra convoquer des synodes nationaux. Cette église protestante renaît de ses cendres grâce, ce que Franck a évoqué, à beaucoup de jeunes pasteurs originaires de votre région. Et on aurait bien pu l'appeler église Cévenole, vu son origine géographique. Mais les forts liens avec le refuge et la conscience historique de l'ancienne importance de l'église réformée française empêchent une telle réduction.
Juste une question, est-ce que vous pouvez bien entendre? Le même réflexe de garder le nom qui exprime l'enracinement dans le passé, nous l'observerons en nous approchant du cœur de notre sujet, à savoir le mouvement religieux appelé l'unité des frères, qui est bien plus qu'une église morave. Morave comme Moravie, le pays. C'est une région tout aussi montagneuse que les Cévennes, à quelques 1400 km d'ici, dans le sud-ouest de l'actuelle République tchèque. Une région où a pu survivre une autre église non catholique, l'unité des frères. Dans ses origines, elle précède la réforme de Luther et de Calvin. Au courant de cette année 2015, on commémorera un autre triste anniversaire, la condamnation de Jean Hus au bûcher en 1415. Ce théologien de Prague, proche du pré-réformateur Jean Wycliffe, paya ainsi sa critique de l'Église de Rome. Ses prédications en langue vernaculaire, donc tchèque, attiraient des foules et après sa condamnation, des tourments violents secouèrent et déchirèrent la Bohême. Mais les puissants se trompaient en croyant pouvoir éliminer par la force ce qu'ils considéraient comme hérésie. Les Hussites, divisés en de différentes factions, se battirent des décennies durant. L'enjeu fut autant politique que religieux.
Cependant, une fraction des Hussites opte pour le pacifisme. Figure principale, lumière pour le mouvement pacifiste jusqu'à nos jours, Petr Chelčický. Il est influencé par des écrits vaudois. Vaudois, ce qui est à l'époque un mouvement répandu dans l'Europe entière, donc pas uniquement dans les vallées dauphinoises ou piémontaises. Chelčický prône une vie simple en communauté, d'après le modèle biblique des Actes des Apôtres. La non-résistance au mal et à l'oppression. Dans ces années où la chrétienté s'entre-déchirait, où trois papes s'opposaient, un groupe décide alors de recréer l'Église dans cette simplicité des origines. En 1457, il trouve refuge en Moravie et s'établit à Kuhnwald où ils vivent en communauté. Ce que vous voyez ici, c'est leur maison de rassemblement, nous dirions la maison d'oraison. Ils y fêtent la Sainte Cène sous les deux espèces, le pain étant un simple pain paysan. Quelques caractéristiques. Ils chantent leur foi en de nombreux cantiques. Ils se considèrent frères et sœurs, tous enfants d'un même Dieu, et une discipline stricte règle la vie de la communauté. Ce groupe se nomme Unitas Fratrum, unité des frères. Leur nom est tout un programme ecclésiologique. Ils ne se considèrent pas église. Ce terme est réservé à l'Église du Christ qui se révélera à la fin des temps et qui se constitue à travers toutes les dénominations. De ce fait, les frères sont œcuméniques avant la lettre. Ces frères de l'unité sont communément appelés les frères de Bohême, d'après leur langue, ou de Moravie, d'après leur enracinement géographique. C'est par leur vie qu'ils témoignent de leur foi, et beaucoup de gens se joignent à eux, tant de simples paysans et artisans que des seigneurs nobles. Malgré la répression, le mouvement prend son essor et sous la persécution, il se répand jusqu'en Pologne.
L'Église catholique s'oppose de tout son pouvoir à la réforme. L'illustration que nous avons choisie illustre l'apogée de la contre-réforme en France avec la révocation de l'édit de Nantes en 1685. Le triomphe de l'Église catholique, l'hérésie terrassée par les foudres de la législation anti-protestante. C'est donc une statue de Louis XIV érigée 2 ans après les événements par les échevins de Paris et actuellement exposée dans la cour du musée Carnavalet. En Bohême, nous observons le même processus. La contre-réforme s'unit au pouvoir royal et impérial et signale la fin des unités de l'unité des frères. Et ceci en 1620 déjà. En surface, la structure de l'unité des frères est détruite. Jan Amos Comenius, le même que l'on nomme en France le Galilée de la pédagogie, leur dernier évêque, est contraint de se réfugier aux Pays-Bas, où il se liera d'amitié avec Jean de Labadie, pasteur du refuge. Son ouvrage rédigé en 1650 est intitulé « Le testament de la mère Église mourante à ses enfants ». Il s'agit là d'un document de première main qui mériterait d'être lu et réédité en France. C'est d'une actualité vraiment triste, vu ce qui se passe dans l'Occident, dans l'Orient. En Moravie, il y manque des ministres tels que Cour et Cortés, qui oseraient réorganiser l'Église dans la clandestinité, et l'unité des frères va renaître en dehors de son ancien territoire.
Comme pour les Huguenots, les souverains des pays protestants voisins offrent la possibilité aux persécutés d'y trouver refuge. Parmi eux, un tout jeune comte qui vient d'hériter un lopin de terre aux confins de la Bohême, dans la région de Saxe nommée Lusace. C'est Nicolas Louis de Zinzendorf, né avec le siècle en 1700. Éduqué par sa grand-mère pieuse et de nos jours, on dirait, émancipée, il passe par le moule d'une formation piétiste à Halle, il fait ses études à Jena, université de renommée, et en tant que juriste, il est destiné à une carrière à la cour. Son grand tour, ce que faisaient les princes à l'époque, l'amène jusqu'à Paris, où il se lie d'amitié avec le cardinal de Noailles, un janséniste appelant. Ils partagent une même foi centrée sur le Christ qui a laissé sa trace dans leur correspondance. Or, la vie de Zinzendorf bascule quand il rencontre celui qui vient de bâtir sur son domaine la première maison destinée à accueillir des réfugiés. C'est Christian David, charpentier de son métier, ancien catholique converti au protestantisme, originaire de la Moravie, mais germanophone. Toute sa vie sera placée sous l'enseigne de voyager pour témoigner. Porté par le feu de sa piété évangélique, il retourne clandestinement dans sa patrie et fait ressortir en plusieurs voyages, notamment des membres de cette unité des frères, qui avaient gardé intacte la mémoire de la foi de leur père au sein de leur famille, tout comme les Huguenots en France.
Cet établissement de Herrnhut se transformera en un pôle d'attraction, on pourrait même dire de dimension européenne, pour tout un chacun inquiet de vivre sa foi de façon authentique, piétiste, inspirée, illuminée, des jeunes en quête de leur foi. Un groupe extrêmement jeune et hétérogène donc, qui a failli éclater, littéralement exploser. Alors Zinzendorf troque son poste de conseiller au Lick à la cour de Saxe en seigneur souverain pour s'établir à Herrnhut. Élaboré par lui, les statuts règlent désormais la vie de la communauté, à la fois la vie civile et la vie religieuse. Le 13 août 1727, tous les membres célèbrent la Sainte Cène. Voilà une expérience profonde qui gomme leurs divergences. Ils diront qu'ils ont appris à s'aimer. Puis, il faut remarquer le génie du Seigneur souverain, nota bene un juriste comme Calvin. Piétiste, profondément marqué par l'idée œcuménique, mais toujours luthérien de cœur, il imagine une solution au tiraillement théologique dans la jeune communauté en développant le concept dit de trope, du mot grec dans la Bible, mode, les façons d'être. Alors, chaque façon de vivre sa foi est à respecter dans sa particularité, qu'il soit luthérien, calviniste, méthodiste, morave ou orthodoxe. Et il a même pensé aux Juifs. Et aussi longtemps que les dons de Dieu ont été confiés. Voilà le ferment pour souder le groupe et lui donner une cohésion spirituelle extraordinaire. Zinzendorf n'en reste pas là. Il s'engage à lutter en faveur de la reconnaissance officielle de cette communauté, de cette unité des frères renouvelée. C'est ainsi qu'ils s'appelleront désormais officiellement. Le comte arrivera à arracher un certificat de reconnaissance tant aux luthériens à Tübingen qu'aux anglicans et au Parlement de Londres. En revanche, et c'est assez caractéristique, l'Église réformée de Genève reste toujours sur la réserve. Ces deux autorisations préparent la voie à l'implantation de la communauté dans le monde. Des établissements se multiplient à travers l'Europe protestante et l'Amérique du Nord. C'est d'ailleurs en anglais qu'on a forgé le terme « Moravian Church », « Église morave » en français. Il serait toujours préférable de parler des frères de l'unité au lieu de frères moraves, parce que, selon eux, la vraie Église est celle du Christ, comme nous venons de le relever.
Pour illustrer notre propos, nous avons choisi une image datant du XIXe siècle. L'image est chère aux Moraves des États-Unis, initiateurs de cette mission auprès des indigènes. Il semble s'agir d'une prédication en vue d'atteindre des foules, phénomène que nous allons évoquer plus loin. Cependant, le concept original de la mission Morave est bien différent. Les directives rédigées par Zinzendorf à l'attention des missionnaires, elles portent l'empreinte de son charisme. La mission morave vise, à l'opposé des pratiques jésuites du baptême collectif, un éveil de l'individu, une maturation de la foi personnelle. Enfant de son siècle, le comte est convaincu que tous les humains sont amenés à une religion naturelle, que Dieu, le Créateur, leur est connu. Par conséquent, il invite les missionnaires à vivre auprès des indigènes, à partager leur vie, à apprendre leur langue et à les assister dans leurs besoins. Quand on demandera aux émissaires moraves ce qui motive leur présence aimante, le moment est enfin venu pour leur parler petit à petit de ce Dieu, de celui qui nous a aimés en premier en nous envoyant son Fils qui a donné sa vie pour nous sur la croix. L'idée est donc de rendre un témoignage par la façon de vivre avant de témoigner par la parole. Et chose essentielle, d'attendre avec patience l'œuvre du Saint-Esprit des années, voire des décennies durant. À partir de 1732, les frères se mettent à porter l'Évangile là où personne n'était allé, donc à l'opposé des groupements évangéliques de nos jours, surtout américains, qui évangélisent au sein d'autres églises chrétiennes, par exemple orthodoxes. Ils partent d'abord auprès des esclaves dans les Antilles hollandaises, puis chez les Inuits de la Groenland danoise, ensuite chez les Indiens en Amérique du Nord. Plus exactement, ils se soucient des terrains délaissés par les missions catholiques et par l'Église anglicane.
Le tableau que vous voyez devant vous est assez extraordinaire. Il représente l'esprit de la mission des frères. C'est-à-dire qui aimerait voir l'original, il se trouve à Zeist, dans les Pays-Bas, près de d'Utrecht. Ce sont toujours les premiers qui ont été baptisés qui sont représentés. Et comme toujours dans les missions, c'est-à-dire on a beaucoup de déperditions parmi les missionnaires, mais aussi parmi les gens. Alors, il y a par exemple beaucoup de Noirs qui sont venus à Herrnhut, et on sait que là, la mortalité était très élevée. Après 15 ans de mission, nous voyons ici donc les premiers chrétiens des différentes régions qui étaient entrepris, décédés et accueillis par le Christ, leur sauveur. Au pied du Christ, deux peaux rouges, des Indiens Cherokee. De tous ces personnages, on connaît le nom, la vie et le cheminement spirituel. Et il faut aussi savoir, c'était une mission tout à fait privée, c'est-à-dire les gens ont travaillé dans les établissements et un tiers du bénéfice passait donc à la mission. Alors il fallait donc très bien bosser. Relevons l'essentiel. L'unité des frères est d'une part la première église protestante à relancer, en tant qu'initiative privée, non étatique, une mission auprès des païens concis au sens moderne global. Bien avant les grandes entreprises du XIXe siècle, qui, cependant, ont souvent, trop souvent même, œuvré de concert avec l'empire national et les nationalismes.
Conformément à l'idée de l'unité de l'Église du Christ, un deuxième chantier s'ouvre à eux. Les frères sentent le besoin de contacter et connecter les réveillés de tous bords. Ce terme renvoie à des fidèles soucieux tant de renouveler leur piété que de partager avec les frères moraves la foi intime en Christ le Sauveur. Les frères parlent de leur activité dans la diaspora, donc parmi les disséminés. Ce que vous voyez affiché, c'est un texte de la direction de l'unité en 1783. Nous y lisons cette définition de diaspora. Il est certain que le Sauveur s'est réservé dans les religions chrétiennes un grand nombre d'âmes ignorées qui s'attachent à lui par la foi et qui font partie de son Église universelle. Si à plusieurs endroits les sympathisants moraves s'organisent en société, il est toujours entendu qu'ils resteraient au sein de l'Église réformée et qu'ils renonceraient à toutes sortes de séparatisme. Contrairement à l'abbadie que nous venons d'évoquer, qui prônait la séparation, je cite en latin, ecclesiola, donc petit groupe, extra corruptam ecclesiam, ça se comprend, Zinzendorf et les frères se sont toujours opposés au séparatisme. Leur société était censée fonctionner en tant que ecclesiola in ecclesia, donc petit groupe à l'intérieur de l'Église. De nos jours, on dirait des groupes de partage. Selon le concept de Spener, initiateur au XVIIe siècle du mouvement qu'on appelle piétisme. Le même texte que je viens de citer de 1783 explique la raison d'être de ces sociétés. Que les âmes réveillées ne vivent pas isolées, mais qu'elles cherchent à se joindre à d'autres pour jouir de la bénédiction attachée à la communion fraternelle. Nous avons parlé des directives de Zinzendorf pour les émissaires. Quant à la présence des émissaires dans la diaspora, il faut se l'imaginer tout aussi discrète. Leur activité n'a rien à voir avec la prédication de Whitfield ou de Wesley. Le premier réussit en Amérique du Nord, dans la même époque, à réunir quelques 40 000 auditeurs en pleine campagne. Les frères préfèrent les contacts de personne à personne où le cœur peut s'ouvrir en confiance.
On arrive maintenant au pan qui vous intéresse le plus, c'est-à-dire à l'activité des frères moraves en France. Au bout de trois générations, en 1787, il se trouve qu'un historien tâche de faire une synthèse de l'unité des frères, alors mettre une perspective pédagogique et une perspective historique. De façon astucieuse, il présente la panoplie des activités exercées par les moraves sous la forme d'un arbre généalogique vraiment impressionnant. On remarque que sur le cep, métaphore christologique, se greffe une œuvre abondante, l'ancienne et la nouvelle unité des frères, les établissements, les activités missionnaires et la diaspora. À regarder de près, une feuille nous frappe. C'est la double inscription France et Bordeaux, c'est-à-dire l'ancien nom de Bordeaux. Mais la couleur donnée à cette feuille signifie clairement que la société est éteinte. Retenons le premier paradoxe. La France était ici représentée en tant que pays où l'activité des frères se déploie, en dépit du fait que toute expression de la foi protestante y était interdite voire fortement réprimée. Comment donc expliquer cet exploit? Sinzendorf et les frères cherchent, à partir des années 1730 déjà, un contact direct avec l'Église réformée en France. Le début est extrêmement laborieux. Plusieurs tentatives sont vouées à l'échec. Cependant, depuis 1737, tous les 2, 3 ou 4 ans, un frère traverse la France, envoyé à des destinations outre-mer, c'est-à-dire aussi lointaines que Alger ou Constantinople ou le Caire. Et ceci pour entrer en négociation avec les patriarches. Mais chemin faisant, en séjournant plus longtemps, en s'écartant de la route la plus directe, ses frères nouent des contacts avec des huguenots. Un détail, ceux qui prolongent leur séjour en France sont censés subvenir à leurs propres besoins. Nulle question de se faire remettre de l'argent par les réformés, ni de peser sur les finances de l'unité, rudement mises à l'épreuve par l'aventure missionnaire. Ce soir, nous allons nous focaliser sur deux protagonistes qui sont vraiment exemplaires. L'un porte le nom de Knoll et l'autre de Fries. Les deux ont fait l'essentiel pour créer et faire perdurer l'implantation morave dans la France du Sud et dans la France de l'Ouest.
La cheville ouvrière du réseau français, c'est lui. Johann Leonhard Knoll, perruquier de son métier, artisan, compagnon de 28 ans, souvent engagé par des patrons catholiques, c'est grâce à son métier qu'il passe facilement et inaperçu. Il dit d'ailleurs qu'il l'a choisi à propos, ce métier qui lui permet cela. 3 séjours prolongés lui permettent de contacter un grand nombre de réveillés. Knoll, habité par un amour débordant pour son Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, n'hésite pas de parler de ce qui remplit son cœur de joie. Candide. Knoll s'évertue à reconnaître partout du réveil. Son enthousiasme est contagieux. Dans les grandes villes, il réussit non seulement à dénicher des groupes de type piétiste. Donc, je souligne, il y a des piétistes en France avant les Moraves. Donc, c'est lui, justement, qui a le flair de les contacter. Mais aussi, ça c'est vrai, à leur donner un nouvel élan. Knoll arrive finalement à Bordeaux, où il noue beaucoup de contacts qui donneront naissance à cette société de piété que nous avons découverte tout à l'heure sur cet arbre généalogique. Je devrais me corriger, aussi cette société-là précédait de plusieurs décennies l'arrivée de Knoll. À se fier à son rapport de 1786 et en additionnant ces chiffres, on arrive grosso modo à un total de 115 familles contactées en France durant son premier voyage. Un bilan assez respectable. Voici que s'affiche l'écriture de Knoll. Il énumère ses contacts à Nîmes. C'est le premier tiers. Retenons la façon comment Jean Dubois, malheureusement c'est la partie juste derrière nous trois, comment Jean Dubois est qualifié. Je vous le lis. Un homme qui a eu beaucoup de sentiments. Je vous prie de retenir cette parole de sentiment. Nous y reviendrons.
Vous avez reçu une photocopie. Et c'est une carte qui se trouve au dos de notre livre. Et cette carte résume le voyage de frère Fries. Néanmoins, à l'exception du crochet fait par Fries en Béarn, le parcours est exactement le même de Knoll et de Fries. Ce que la carte ne peut pas faire voir, c'est le réseau par lequel les Moraves et leurs amis sont interconnectés. Knoll, toujours lui, est également artisan du réseau Morave en France. Il s'agit d'une grande prouesse et pour 3 raisons. Premier aspect fondamental, la diffusion des écrits moraves en français Par exemple, les discours de Berlin, c'est un best-seller européen qui a été traduit en 13 langues européennes et aussi en français à plusieurs reprises, mais aussi les cantiques moraves. Et le tout traduit en français et imprimé auparavant en Allemagne et en Angleterre. Si par hasard vous tombiez sur un tel texte, alors gardez-le précieusement parce qu'ils sont très rares de nos jours et à l'époque ils étaient vraiment très répandus. Le deuxième aspect est loin d'être négligeable. Knoll parvient à inciter les amis moraves à mener d'intenses correspondances. Bien sûr, entre émissaires et amis français, mais également avec d'autres frères et sœurs, y inclus les quelques réfugiés ayant rejoint l'unité des frères. Alors imaginez-vous, il y a des gens qui ont émigré de Bordeaux, il y a d'autres qui ont émigré de Nîmes, qui habitent à en Suisse et après en Allemagne, et qui écrivent régulièrement, c'est-à-dire c'est donc une source de toute première main et qui informe les gens. Alors, parmi ces gens, il faut citer les deux Lubachin de Nîmes. Alors, la famille Lubachin, elle est connue parce qu'il y a beaucoup de Lubachin qui figurent dans les registres pour être punis pour les assemblées ou pour avoir couvert les protestants. Alors, deux des Lubachins de Nîmes se sont réfugiés dans des établissements moraves. Même si rien n'a subsisté de leur récit, mais en revanche, on a trouvé deux portraits, c'est-à-dire deux silhouettes des deux, il faut admettre que l'impact fut énorme. Je vais vous lire la lettre d'Antoine Chabot, écrite à Zinzendorf lui-même. Chabot écrit en 1747. Il y a environ 2 ans que, je ne sais pas par quel hasard, j'entendis parler de votre société, Monseigneur, sous le nom de Frère Morave. Un de mes amis, peu après, me communiqua quelques lettres de diverses personnes réfugiées à Montmirail. Alors Montmirail est donc en Suisse, à Neuchâtel. Leur façon de s'énoncer fut si conforme à l'idée que j'avais de la façon de vivre des premiers chrétiens que je m'imaginais que c'était des instruments dont mon Sauveur se servait pour rétablir l'ancienne piété et l'ardente amour qu'on avait pour lui dans l'Église naissante. Alors, ça c'est donc le deuxième point, la correspondance. Et le troisième, c'est un fait qui est absolument étonnant dans ces années de censure. Quant aux sympathisants moraves, Knoll les a mis au bénéfice des nouvelles de la communauté morave. Alors c'est une particularité, ce sont des lettres écrites à la main tous les 2 semaines et qui sont envoyées à peu près à 70 personnes dans le monde, à 70 places, et à partir de là, ils circulent. Et comme ce sont des lettres écrites à la main, on ne peut pas les censurer. On pourrait censurer l'écrit, parce que l'écrit, on sait quel texte est interdit ou pas interdit. Alors, il passe sous la censure et ça passe régulièrement. Seulement, il y a très peu d'exemples. On a trouvé 2 exemples, un figure dans notre texte. Il est donc intéressant que les Français eux-mêmes entretiennent à cette époque-là très peu de correspondance et les pasteurs encore moins parce que c'était dangereux, c'était difficile. Ça veut dire que les pasteurs étaient absolument isolés et ils étaient heureux de rencontrer un morave. En 1756, lors du dernier voyage de Knoll, la guerre de 7 ans oppose la France tant à la Prusse qu'à l'Angleterre. Mais cela n'a nullement empêché les frères à continuer leur engagement auprès des Huguenots. Au contraire, leur travail s'en trouve facilité. Comme les soldats sont sur le front, la pression aura légèrement diminué.
Notre protagoniste Pierre Conrad Friese, vous le voyez ici en silhouette. Celle-ci a été faite 10 ans après son voyage en France. Quel est son parcours? Pasteur luthérien, originaire du pays de Montbéliard, qui faisait à cette époque pas pas encore parti de la France. Il est bilingue. Friese vient tout juste de rejoindre l'unité des frères. Intelligent, mais aussi doté d'une discrétion absolue, il ne veut rien être que d'être frère parmi les frères et sœurs. La tâche confiée à lui est taillée à mesure, tenant compte de sa formation et de ses origines. Il est engagé à Neuwied, établissement morave sur le Rhin, en face de Koblenz. Et en tant que prédicateur français, il doit desservir la minorité francophone, dont donc justement ces deux Lubachins. Après le périple français, ses qualités d'administrateur lui valent des tâches délicates, à savoir de négocier à la cour de la Russie auprès de Catherine II un établissement morave, le futur Sarepta, situé au bord de la Volga, aujourd'hui une partie de Volgograd. Pour l'heure, on lui confie une mission des plus difficiles, faire un voyage en France parmi les Huguenots qui sont toujours contraints à vivre leur foi en clandestinité, mais on rajoute un voyage prolongé.
Alors, si on prend le rapport de Friese et si on regarde la première page, on lit tout au début les trois objectifs qui font partie de son voyage. D'abord, c'est d'aller en France pour y saluer nos anciennes connaissances, c'est-à-dire entretenir des liens d'un réseau existant. Deuxième point, en former de nouvelles avec les âmes réveillées, c'est-à-dire continuer l'engagement et trouver de nouveaux sympathisants. Et le troisième point est de reconnaître de quel esprit sont animés les protestants de ce royaume. Friese, du reste, est le seul émissaire à qui le troisième objectif a été assigné, à savoir d'observer l'évolution spirituelle du protestantisme, et cela à un moment vraiment du tournant des Lumières, c'est-à-dire c'est vraiment le début des Lumières militantes. Ce que vous voyez donc, c'est la première page de ce journal, un texte hors du commun, de 210 pages en quatre cahiers. Il ne faut pourtant pas se méprendre, il ne s'agit pas d'un carnet de bord, ni d'un journal intime. Le texte est d'une autre nature et vous l'avez deviné avec les trois premières phrases que j'avais lues. C'est de page en page un rapport de visitation, de nos jours, nous dirions, de supervision. Son texte est un témoignage à l'attention, mais uniquement de la direction de l'unité, pour mettre cette dernière en état de décider si oui ou non on continuerait à s'engager en France. En même temps, le journal constitue une source d'information aux mains de ses successeurs qui y trouvent des portraits des personnes qu'ils seront censés de contacter.
Au bout de 250 ans, donc de nos jours, le texte que nous venons d'éditer constitue cependant une source exceptionnelle à plusieurs égards. Ce texte met en lumière l'état du protestantisme français à cette période. Partout où notre protagoniste passe, il note le nombre des protestants, il est bien renseigné. Il nous livre une analyse sociologique avant la lettre. Il décrit le climat politique qui change de département ou de province en province. Ainsi, il nous fait voir toute la complexité du protestantisme sur sol français, ce qui nous empêche de tomber dans le leurre de la simplification du type « période du désert de tolérance », affirmation couramment entendue. Voici quelques éléments épinglés par Friese, un galérien, le jeune Favre devenu célèbre pour avoir pris la place de son père âgé, les prisonnières de la tour de Constance, nombre de ministres, donc ils travaillent toujours de concert avec les ministres, ils les contactent aussi souvent qu'ils peuvent et aussi souvent qu'eux ils veulent. ces ministres tous contraints à assumer une vie clandestine. Si jamais ils peuvent recevoir des visites, que de nuit, avec un mot de passe qui est obligatoire. La tourmente lors de l'arrestation du pasteur François Rochette, le désespoir lors de la condamnation de Jean Calas, et nous en passons. Vous l'aurez constaté, frère Knoll et frère Fries, l'un et l'autre, envisagent leur mission de façon bien différente. Pour mettre en lumière cette différence, prenons appui sur un tableau de Dürer, une digression, il est vrai, qui aura, croyons-nous, l'avantage de mieux saisir cette différence.
Alors, vous nous excusez de faire une digression, c'est-à-dire vers la réforme, et de vous montrer un tableau qui est célèbre, ou les deux panneaux qui sont célèbres, mais je crois qu'il nous facilite à comprendre le phénomène que nous voulons montrer ici. D'abord, le tableau. Il est énigmatique, parce que c'est un choix personnel dû à l'artiste Jean, disciple et évangéliste, avec de gauche à droite Pierre le disciple, Marc l'évangéliste et Paul, chacun muni de ses insignes. Tant la facture, la façon de faire et la dimension sont monumentales, c'est-à-dire le tableau mesure 1,64 m de haut. Dürer a achevé ces deux tableaux 2 années avant sa mort et il en a fait don à la ville de Nuremberg. Ce qui est intéressant, il a habilement mélangé les éléments de la Renaissance et du Moyen-Âge, parce qu'on faisait la même chose à la fin du Moyen-Âge, on le continue maintenant avec la Réforme. Et, ce qui est beaucoup plus important, il respecte entièrement l'iconographie. Les quatre, si vous regardez bien, sont à égalité. Et chacun présente un caractère. Saint Marc, le Manuel, un éternel optimiste, tout est faisable. Son voisin Paul, l'intellectuel, un théoricien, un homme de doute, bref, un leader né sur qui pèse le fardeau de la responsabilité. Saint Jean représente le tempérament juvénile et sanguin, Saint Pierre le flegmatique, Saint Marc le colérique en raison de la vigilance de lion, comme on dit dans les textes. Et Saint Paul a le regard d'un mélancolique. Alors c'est donc fortement typé, et c'est-à-dire là, il y a aussi l'héritage de l'Antiquité. Plus de 2 siècles séparent Knoll et Fries du chef-d'œuvre de Dürer. Néanmoins, la comparaison s'y prête en raison du caractère de Marc et Paul, respectivement de 2 frères moraves. La tâche à laquelle on s'attelle est toujours la même, seulement l'approche personnelle est déterminée par le caractère, soit très affirmatif ou dubitatif.
Malgré leurs différences, les frères Knoll et Fries sont porteurs d'un même message de fond. S'ils adhèrent à l'unité des frères, c'est qu'ils y trouvent une piété joyeuse, une confiance profonde dans le Christ, le Sauveur. L'image qui illustre notre propos, c'est un tableau de Domenico Feti. Le jeune comte de Zinzendorf l'avait découvert lors de son grand tour. Il en était bouleversé. On dit même que c'était le moment de sa conversion, profondément touché. L'écriture, qui se cache de nouveau derrière nous, a dit « Voici ce que j'ai souffert pour toi ». Jésus, Dieu incarné, qui souffre la mort sur la croix pour nous, l'agneau de Dieu, voici le centre de la théologie de Zinzendorf et de la théologie des frères. À droite vient de s'afficher le frontispice d'une collection de leurs textes de 1741. On observe l'agneau vainqueur de l'Apocalypse et le sang qu'il verse. Ce sang est une métaphore importante pour les frères quand ils évoquent l'œuvre salvatrice du Christ. Le frère Fries est fréquemment interpellé à expliquer le pourquoi de sa venue en France. Non, il ne s'agit pas de faire du séparatisme. Non, il ne s'agit pas de faire du prosélytisme. Je cite, « Les frères ne voyageaient point du tout pour répandre une nouvelle doctrine dans les pays. » Formulé positivement et tout simplement, je cite, « Le but de mes voyages était de trouver des gens disposés à donner leur cœur au Sauveur qui les a rachetés. »
Et Fries le répétera souvent dans son journal qu'il veut, je cite, « parler par sentiment selon ma propre expérience ». Deux mots qui sont vraiment fondamentaux pour un piétiste. Vis-à-vis de Paul Rabaut, le grand pasteur de Nîmes, Fries précisera que les frères cherchent des gens, je cite, « pour les engager à ne plus traiter leur religion avec des cœurs morts, sans sentiment, mais à s'approcher du Sauveur en pauvre pécheur ». Du reste, si vous lisez Luther, il aurait parlé de la même façon, aussi en pauvre pécheur. C'est donc ce réveil du cœur que recherchent les frères, tout en rajoutant avec modestie que le Saint-Esprit seul peut l'opérer. C'est une véritable conversion qui imprègne la vie jusqu'au dernier souffle, d'où une mort paisible en toute confiance, je cite. Je lui fis le récit du délongement, c'est-à-dire de la mort, de quelques personnes que j'ai vues expirer heureuses et contentes dans la foi du Seigneur. Ce témoignage d'un décès en toute confiance doit avoir eu un grand impact à l'époque où la piété réformée était imprégnée par le respect et la peur d'un Dieu sévère et surtout de l'enfer avec des châtiments. Il y a tout récemment le cours du professeur Le Chaux qui a été publié dans une revue et qui montre exactement que c'est là le sujet des calvinistes au XVIIIe siècle. Plus le siècle avance, plus s'accentue le courant déiste, voltairien, nous dirions de nos jours libéral. Ce témoignage des frères est alors perçu comme un témoignage érigé par Dieu à l'encontre de les religions. Alors c'est donc un Français, un pasteur qui le dit dans les années 1780.
Si en 1797, le dessinateur de l'arbre généalogique avait supposé la fin de l'activité morave en France, il se trompait. Le frère, alors en charge de l'activité en France, avait certes dû quitter la ville de Bordeaux pendant la Terreur. Mais il y retourne en 1800, relayé en 1803 par le frère Mérilla, c'est un nom à retenir dans le Languedoc, qui visite régulièrement les amis des frères dans le sud jusqu'en Cévennes. Au moment de l'ouverture de l'université protestante à Montauban, et sur invitation de deux des professeurs, les frères déplacent leur centre d'activité définitivement dans le sud. Donc, dans un premier temps à Montauban, où ils ont aussi un internat, plus tard à Saint-Hippolyte-du-Fort, au pied des Cévennes. On leur doit des initiatives d'un autre type, plusieurs écoles de dimanche, et ce qui est à retenir très tôt déjà, dans le 19e siècle, un groupe de pasteurs crée une conférence qui est en contact direct avec l'unité des frères à Herrnhout. Ce sont les années du réveil avec un grand R, dans ce renouveau de la piété, qui est en même temps une douloureuse déchirure de l'Église réformée. Comment juger le rôle des Moraves? Il est indéniable que le nouveau climat leur est favorable et qu'ils y participent. leur rôle dans le terrain du Languedoc serait encore à creuser. Mais la guerre franco-allemande mettra un terme à l'activité des frères en France. Le dernier des travailleurs moraves quitte le pays en 1870. D'autres ont relevé le défi de porter en avant le témoignage évangélique. Mais certains se souviendront que c'est un flambeau qui leur a été remis par ses frères de l'unité qu'on appelait les Moraves.
Nous voici enfin, diront certains, arrivés à la fin, c'est-à-dire au moment de la conclusion. Pour le protestantisme français au XVIIIe siècle, cette période rime à un mot, c'est le désert. Temple détruit, assemblée en plein air, pénurie de pasteurs, un corps pastoral aux études lacunaires. Du côté des confrères calvinistes dans les pays libres, je pense à la Suisse, je pense aux Pays-Bas, je pense à l'Angleterre, là, ce sont plutôt des critiques qui fusent. On reproche aux Français, aux Huguenots, les assemblées illégitimes. Et on dit même que les pasteurs ne sont pas légitimes parce qu'ils n'ont pas fait des études de 4 ans à l'université. Seulement, aucun des confrères, à ma connaissance, a fait le saut de s'aventurer en France pour travailler comme pasteur. Bon, c'était horriblement dangereux, mais ils ne l'ont pas fait. Dans cette situation et dans ce contexte, l'activité des frères Moraves doit être située. Ils se sont, comme on dit de nos jours, mouillés. Ils se sont engagés, moins pour l'Église, institution, mais pour les fidèles, ceux et celles qu'ils ont qualifiés de réveillés. Un engagement aussi petit qu'il soit mérite d'être rappelé. Dans ce sens, il convient de procéder à un changement de perspective. Sébastien Fatt écrit dans son excellent ouvrage sur l'évangélisme au XIXe et XXe siècle, il dit que les Moraves ont contribué au XVIIIe siècle pour une toute petite part. Son affirmation est parfaitement correcte si on se place en aval, c'est-à-dire si on se place au 19e, parce que les effectifs ont été tout petits. Mais si on se place en amont, elle est spectaculaire, parce qu'il n'y a aucun groupe qui s'est aventuré, on ne connaît pas d'autres, et ils sont venus assez régulièrement. Alors, vu le contexte même du désert, stationner un seul missionnaire dans la France du désert et veiller à la continuité des contacts, c'était très important. On pourrait peut-être dire héroïque, c'est pas mon mot, mais pour les Moraves, c'était une évidence. Et si vous avez encore une minute, j'aimerais finir définitivement par une réflexion personnelle. Max Weber, il a constaté à la fin du 19e siècle que le monde moderne se développe grâce aux administrations. Et il a développé un terme, la rationalité. Alors il a dit, les administrations, l'administration militaire, l'administration de l'État, ont une rationalité qui est nouvelle et qui est vraiment très importante. Alors il faut tenir compte de cela, c'est-à-dire il ne faut pas généraliser. Et il a dit en plus, cette rationalité entraîne un désenchantement du monde. Alors, si on prend ce terme et si on dit que l'affirmation de Max Weber est juste et généralisable, à ce moment-là, les Moraves ont contribué à un réenchantement. Je tiens à vous remercier de votre attention.
Bien, alors, premier tour de vous remercier, Dieter et Heidi, pour cette belle synthèse du mouvement de l'unité des frères
à la fois en nous faisant découvrir ses origines et puis son évolution, son développement à Erfurt, et avec sa figure majeure qui est celle du comte de Zinzendorf, mais ensuite aussi en nous faisant goûter, effleurer le monde que découvrent justement les frères Knoll et les frères Free en France, puisque on peut dire que vous l'avez effleuré, le livre en dit beaucoup plus. Vous n'avez rien dit des rapports de Frise avec Rabault, avec Guizot. Je pense que peut-être ce sera l'objet de questions. Donc il y a beaucoup aussi encore à découvrir sur ce monde de Morave. Mais ici, cette conférence nous introduit, et je pense que vous avez raison de conclure ainsi, sur ce travail des Moraves qui a été complètement négligé, y compris par des spécialistes comme Sébastien Fatt du monde évangélique français. Voilà, donc je suppose que le public a des questions, des remarques. J'en ai vu certains lorsque vous avez parlé de Saint-Hippolyte du Fort s'étonner. Donc effectivement, les Moraves ont travaillé à Saint-Hippolyte du Fort et peut-être cela a suscité des questions et des interrogations de votre côté. Je vous laisse la parole. Alors, il y a un micro là et on répétera les questions pour l'enregistrement.
J'y réponds.
Oui. Alors, vous pouvez répéter la question maintenant pour l'enregistrement.
Alors, vous voulez savoir, c'est-à-dire, s'ils se sont frôlés d'une part au rationalisme, mais aussi à l'illuminisme. Oui, c'est les deux. Et vous avez pris le mot enchantement. Alors là, il faut faire une distinction. Enchantement en allemand n'est pas du côté de l'illuminisme. C'est-à-dire, c'est Verzauberung dans le sens d'un conte de fées. C'est-à-dire là, la limite est tout à fait claire. Pour Zinzendorf, Lüker, lecture préférée toute sa vie, c'est Bayle, ou Bayle, comme vous dites. Pendant toute sa vie, il dit à tout le monde, lisez Bayle. Et c'est-à-dire, et si j'ai regardé qu'est-ce qu'il a vraiment pris, tiré de Bayle, alors chez Bayle, il y a la piété et il y a la critique. Et Bayle dit... Les deux sont absolument nécessaires et justifiés, mais les deux doivent être dans un certain équilibre. Et Zinzendorf, il est élève de Bayle parce que il lit les éditions critiques de la Bible, il connaît les langues de l'Ancien Testament, et disons là, c'est un homme éclairé et il s'inspire. En revanche, Voltaire est aussi un élève de Bayle, et Voltaire met tout sur le plan de la critique. Il dit, mais la religion, c'est-à-dire là, c'est dépassé, et finalement, la religion, c'est une toute petite part, c'est vraiment l'homme naturel, et disons, pour lui, c'est fini. Et j'ai fait une petite étude où l'on voit l'attitude de Zinzendorf à Voltaire et l'attitude des méthodistes à Voltaire. À Voltaire, et c'est-à-dire là, c'est tout à fait clair. Alors, pour la deuxième partie, pour l'illuminisme, vous savez, un mouvement nouveau doit toujours se débattre avec tous les autres mouvements, et aussi l'illuminisme. Alors, il y a un professeur à la Sorbonne, qui a établi Zinzendorf est un illuminé de la Silésie. Alors, c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qu'il prend, qui figurent dans son texte. Mais Zinzendorf lui-même n'est pas essentiellement illuminé, il ne l'aurait jamais dit. Mais il a connu tous ses écrits. Je ne sais pas si c'est une réponse suffisante.
Si je peux peut-être rajouter quelque chose. Je ne sais pas si vous faites allusion aussi aux inspirés. Donc les inspirés, c'était à l'époque quand même un mouvement qu'on prenait en Europe plus au nord, très au sérieux. Donc, quelqu'un qui parlait apparemment par la force de l'inspiration, on l'écoutait dans, au début du XVIIIe siècle. Donc, le jeune Zinzendorf prêtait tout à fait attention à ce mouvement. Donc, il ne le rejetait pas d'emblée. Si tout à l'heure j'ai évoqué le terme de sentiment, c'était pas dans le ton de sentimentalisme, de romantisme. Pour notre frise, ça signifie on peut faire des expériences par le vécu qui nous imprègne comme une vérité vécue. Donc c'est dans ce sens-là. D'accord. Okay.
D'autres questions ? Pour rebondir sur la question de Charles, est-ce que Free et Knoll sont confrontés à des pasteurs qui sont des millénaristes ? Est-ce qu'il y a un mouvement à cette époque en France, millénariste puissant, qui espère le retour du Seigneur sur la terre et qui va régner sur la terre ?
Alors, en relisant le journal de voyage de Fries, on a l'impression qu'il est arrivé dans un nid de millénaristes. Parce qu'il y a au moins une demi-douzaine de pasteurs, et le plus important, c'est Rabot. Et il lie une amitié extraordinaire avec lui lors de son premier séjour. Et lorsqu'il revient, on voit Rabot a un petit changé. Et il lui pose la question, mais qu'est-ce que vous pensez là sur le millénium ? Et Rabot lui répond ce qu'il pense, et là, il y a la rupture. C'est-à-dire, il ne peut pas voir, c'est-à-dire le millénarisme. Et disons, là, c'est une sorte, il est quelque peu militant sur ce plan, parce que si on regarde l'évêque Spangenberg, qui écrit une génération plus tard une doctrine, alors là, il parle avec douceur des militaristes, alors là, mais il n'y a pas de rupture. Tandis que pour lui, c'est une opposition. La deuxième partie qui me paraît extrêmement importante, le fait que ces pasteurs ont été millénaristes leur a donné une force de combat qui est extraordinaire. C'est-à-dire, si on prend par exemple Rabot n'a jamais quitté Nîmes. C'est-à-dire, il s'est réfugié. Il a spéculé à une émigration, mais il n'a jamais fait. Il est resté parce qu'il a dit non, il faut rester. Et Rabot était assez sûr, le minimum, c'est imminent, ça fait peut-être arriver dans les années 80-90.
Alors, pour répondre à la question qui n'a pas été posée concernant Saint-Hippolyte du Fort, nous savons que le groupe au milieu du XVIIIe siècle avait une cinquantaine de personnes. Et donc, c'est une petite communauté. Et à ce moment-là, il décide même de construire une petite salle de réunion qui est un peu sur le modèle morave, avec des grandes fenêtres et lumineuses, etc. Et on sait que pour Noël, qui a une grande importance dans les communautés moraves, c'est très festive avec les enfants, beaucoup de chandelles, etc. Donc ils avaient jusqu'à 200 personnes. Et après, il y a eu un moment qui est typiquement du réveil, que un des pasteurs moraves qui est là-bas, il fonde une paroisse. Donc, ils font un culte aux mêmes heures que le culte réformé, etc. Et ils ont la Sainte-Seine, des baptêmes, mais ça dure à peine 15 ans. Parce que c'est vraiment pas dans l'esprit de diaspora. Et le dernier reste de présence morave dans votre région, c'est les abeillères. C'est toujours une possession de la communauté de Zeist, près de Utrecht, donc qui a été mis à disposition de la fraternité et avant mise à disposition des sœurs de Pomerol. Et les sœurs de Pomerol ont toujours collaboré à parole et texte. Donc il y avait.
J'aurais bien voulu vous poser une question parce que parmi vous, il y a des théologiens, il y a des gens qui connaissent l'histoire régionale. On a trouvé un texte de la Révolution, du doyen en contre. C'est un personnage important qui a été théologien et qui a été aussi mathématicien et qui a fait quelques écrits sur les sectaires au Moyen-Âge, mais aussi après. Et là, il y a un fragment sur les Moraves. Je l'ai publié, j'ai voulu le consulter, je ne l'ai pas trouvé à la bibliothèque, je ne sais pas où il est resté. C'est peu important, mais ce qui est important, Encontre dit, entre autres, ce sont des braves gens, ils travaillent bien, mais finalement, en tant que doctrine, c'est-à-dire là, c'est vraiment à rejeter. Et il dit une chose que vous pouvez peut-être me corriger, c'est-à-dire il dit les Moraves ont une doctrine qui n'est pas scripturaire. Alors, moi, je suis historien, je n'ai pas le même latin ni la théologie, mais peut-être quelqu'un pourrait m'expliquer cela. Pourquoi et comment il arrive à ce jugement? Parce qu'aujourd'hui, les Moraves sont au Conseil œcuménique des Églises, c'est-à-dire là, ils y font part, et disons, le stock, c'est le même qu'au moment de la Révolution.
Alors, on est au fond toujours une église œcuménique. Donc, moi, je suis personnellement, j'ai grandi dans le canton de Berne, donc Zwinglienne, mais par mes parents, je suis dans la tradition morave et j'ai fait partie du synode morave. Mais à côté de moi, il y avait des Allemandes ou Allemands qui étaient d'origine luthérienne. Donc, on est plus large que juste un courant très étroit. Donc, on partage avec les églises réformées la même foi.
C'est la doctrine de l'église réformée.
Oui, mais on est en même temps proche des églises évangéliques parce qu'on partage avec eux cette religion du cœur, une plus grande intensité de la foi dans notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, mais moi aussi, je ne suis pas théologienne.
Un des reproches qui était fait, notamment aux frères Moraves au XVIIIe siècle, et Rabaud interroge Free sur cette question-là, c'est qu'il prie et il s'adresse directement à Jésus-Christ. Et les réformés, à cette époque, ne comprennent pas ce genre de prière. Pour eux, c'est une familiarité inconcevable, car on s'adresse au Père au nom de Jésus-Christ et non à Jésus-Christ directement. Voilà. Ce sont quelques points de divergence qui faisaient que les réformés se sentaient parfois étrangers à cette forme de piété pratiquée par les Moraves.
Mais vous voyez, ce qui s'affiche, c'est les cantiques. Si vous feuilletez votre psautier ou psaume et cantique, je ne sais pas comment il s'appelle, Alléluia, donc vous allez voir qu'il y a beaucoup de cantiques d'une part des frères de Bohême, mais d'autre part de Zinzendorf et d'autres frères moraves, de l'église morave. Donc on est dans la même famille de foi.
Oui, je m'excuse, je rajoute encore un point. Il y a aussi une divergence sur la question de la Trinité. Voilà. Il y a plusieurs, donc il y a quand même plusieurs points de doctrine qui divergent d'un calvinisme classique réformé tel que l'a défini la théologie du XVIIIe siècle, notamment.
Voilà. Mais pas de nos jours.
Oui, ça dépend de quelle branche on parle, évidemment, parce qu'aujourd'hui, tout est éclaté. Mais par exemple, dans l'Église réformée évangélique, c'est la théologie calviniste du XVIIIe qui demeure. Dans l'Église réformée, évidemment, c'est différent, puisque l'Église réformée est pluraliste.
Alors, Zinzendorf était un homme qui a inventé énormément de choses. Il a fait à peu près 7000 sermons. Il a constamment voyagé. Et c'est un esprit extrêmement inventif. Et juste pour le voir, il était à Genève. À Genève, il faisait les négociations pour la reconnaissance de son église. Ça n'a pas joué. Il regardait sur le plan local. Alors, il a trouvé passablement de sympathisants. Mais lui, il pensait déjà à la Pennsylvanie, ce qu'il allait faire dans la mission en Pennsylvanie. Et Zinzendorf, il a fait certaines interprétations qui sont de son temps et qui ont été finalement changées ou corrigées ou modifiées vers la fin du siècle. Alors, vers la fin du siècle, on arrive à des cultes en commun entre Moraves et luthériens et entre Moraves et Calvinistes. Ça veut dire que là, la doctrine n'est plus vraiment une très grande différence.
Oui, dans le monde, ce n'est pas tout à fait 1 million. Les plus grandes églises sont des églises en Afrique, mais aussi en Honduras, donc dans les zones où il y avait des missions. À notre très grand étonnement, il y a une grande église morave qui est née récemment en Congo. On ne sait pas très bien si c'est par contagion, entre guillemets, avec la Tanzanie, hein, donc, qui est là. Il y a une petite église actuellement qui est née après la chute du communisme qui s'est adressée à nous en Albanie. Donc c'est là que les Moraves aident à recréer des écoles de dimanche, etc. Il y a même au Népal, il y en a une, donc c'est étonnant. L'engagement continue. Mais en Europe, c'est un très petit groupe. Et en Suisse, nous sommes même plus 300. Parce que nous n'avons pas fondé une église indépendante. Nous sommes toujours membres de l'église environnante et de ce fait, souvent les enfants, ils se font dans le zwinglianisme, le luthéranisme, etc.
Oui.
Oui, je me souviens, mais je ne sais pas si c'est exact, la Pennsylvanie qui reçoit son nom de l'évangéliste
Penn.
Quaker.
William Penn.
Quaker. Bien, je vous propose de conclure ici cette conférence. Si vous souhaitez prolonger encore la discussion, la conversation autour des frères Moraves, n'hésitez pas à vous approcher de la table, à discuter avec Dieter et Heidi Gembicki. Vous pouvez aussi découvrir cet ouvrage que je vous recommande, Le Réveil des Cœurs, qui est une mine d'informations, un travail remarquable. Je vous précise aussi que la prochaine conférence du cycle Protestantisme en voyage aura lieu en juin. Et nous découvrirons un personnage tout à fait étonnant, à l'histoire quasiment romanesque, l'histoire de Elino, un charentais, protestant charentais, qui était jeune mousse, qui est devenu capitaine de navire, qui a été fait prisonnier par un corsaire français alors qu'il avait trouvé refuge en Amérique, dans les colonies anglaises. Il se retrouve prisonnier, il est envoyé à Saint-Malo, et puis dans les galères, et ensuite au château d'If. Il finit par être libéré, il fonde la première école en Amérique pour les enfants d'esclaves noirs. C'est une histoire tout à fait remarquable que je vous invite à venir découvrir. Ce sera le professeur Didier Poton de l'Université de La Rochelle qui viendra nous parler de ce voyage, le voyage contraint, le voyage d'exil et le voyage évidemment dans les galères françaises, voyage terrible. Et les autres conférences, vous pouvez aussi les découvrir hein, dans ce petit fascicule que la librairie a édité, Le protestantisme en voyage. Vous retrouvez les conférences ici à Alès, à Cholet aussi, à Metz ou à Aix-en-Provence. Voilà, donc n'hésitez pas à vous servir. Et je vous propose de remercier encore une fois nos deux orateurs.